Bonjour à toutes et à tous, l'ABC de la médiation familiale, c'est sur CFM Rhodes, tous les 15 jours, avec Justine Lacombe et Lucia Vintila, médiatrice familiale à la DAVEM de l'Aveyron. Bonjour Lucia.
Bonjour David.
Tout va bien ?
Tout va bien, bon. Impeccable.
Au programme dans ce numéro 8 de l'ABC de la médiation familiale, les outils du médiateur. Alors, est-ce qu'il va falloir que je sorte ma caisse à outils bonjour Justine. Sachant
bonjour
que je ne suis pas du tout bricoleur, quoi. Là, vous êtes dur avec moi, les filles.
Ah, je ne suis pas bricoleuse non plus. Hein.
Bon, je te rassure un petit peu.
Donc, voilà, c'est en médiation familiale, c'est un espace où les médiateurs, on a tous la même formation à la base. Hein,
oui.
Même si on va dire que chaque formateur a formé ses élèves, entre guillemets, de leur propre manière, mais on a quand même une base avec un code de déontologie, enfin des principes déontologiques plutôt qu'on a déjà abordé dans
voilà, je renvoie au podcast des émissions précédentes sur le site cfmradio.fr.
Donc il y a cette base-là, mais après chaque médiateur va avoir sa propre manière de faire sa propre pratique, en tout cas dans cet espace-là, et ses propres outils. Voilà, donc on a chacun nos propres outils. Hein. Alors... du coup, il y a des outils communs qu'on verra après qui sont vraiment en lien avec la communication, des techniques de communication.
Oui.
Et après, il y a des outils plus particuliers que chaque médiateur va inventer ou va utiliser ou va essayer de s'approprier en fonction de la situation, en fonction de ce qu'il ressent, en fonction de sa capacité aussi à être créatif ou pas. Voilà, donc ça, c'est vraiment particulier. Donc nous, on va en évoquer quelques-uns avec Lucia.
Vous avez inventé des outils, les filles? Parce que là, c'est énorme.
Non, inventé, je ne sais pas forcément, en tout cas. Je ne pense pas qu'on ait inventé plus que ça des outils, mais en tout cas, on va en faire partager quelques-uns. Mais voilà, après nous on va improviser aussi, hein. Chaque séance de médiation c'est quand même beaucoup de l'impro, hein. On pourrait presque faire du théâtre à chaque séance.
Non mais je crois
voilà,
que
on
ne
sait
bien
jamais
dire,
ce qui va se passer à l'avance, hein. Des fois on va préparer justement des outils ou des choses qu'on va pouvoir mettre en place et finalement on ne va pas du tout faire ce qu'on avait prévu, on va s'adapter.
Quand je parle de trousse à outils, il y a quand même de ça, quelque part. Puisqu'une trousse à outils, il y a plein d'outils, on ne sert pas de tout et on ne se sert pas forcément pour ce à quoi c'était prévu à la base, mais c'est un peu l'idée.
C'est ça, voilà. Okay. On va avoir une base, en fait. Chaque médiateur va avoir un petit peu sa base. Et sur le moment, on va peut-être sortir un outil de la fameuse trousse en se disant, on peut essayer ça. On essaye, ça marche, ça ne marche pas. Puis finalement, on va peut-être en sortir un autre parce qu'on se dit que ça peut être plus adapté à la situation. On va aussi s'adapter aux besoins des personnes, à ce qu'on peut ressentir sur le moment. Donc c'est vraiment aussi du feeling et du ressenti que chacun va avoir qui va être différent. Voilà. On les partage aussi à travers les analyses de pratique qu'on a une fois tous les deux mois entre nous, entre médiateurs, où on va pouvoir partager des petits outils qu'on utilise chacun dans notre quotidien et ça peut justement nous permettre d'augmenter notre petite caisse ou trousse à outils en fonction de ce qui nous parle ou pas, parce qu'il y a des choses qu'on se sent d'utiliser et d'autres pas du tout.
Moi, par exemple, la clé à molette, pour mes outils à moi, j'y arrive pas. Je préfère le tournevis.
Voilà,
tu vois,
chacun ses outils.
D'accord. Bon, alors on commence avec quoi comme outil, Justine?
Alors, c'est les émotions.
Ah.
Alors, les émotions...
À manier avec précaution.
Voilà, les émotions, c'est une des bases, j'ai envie de dire, de la médiation familiale, puisque les personnes ressentent des émotions, tout le monde ressent des émotions, et on est dans des situations assez complexes, hein, émotionnellement quand même, parce que ce sont des personnes qui sont fragilisées par des situations, qui sont mises en difficulté, qui sont en conflit, ou qui sont, sans forcément être en conflit en tout cas, qui peuvent être touchées affectivement parce qu'ils sont en train de vivre.
Bien sûr.
Donc on est avec la présence des émotions assez forte.
Mmh.
Les personnes ne sont pas forcément à l'aise avec les émotions. C'est-à-dire qu'on est dans une société, même si ça évolue beaucoup, où les émotions, il ne faut pas trop les montrer.
Tu as tout à fait raison, mais ça dépend lesquelles, ça dépend où, ça dépend comment, ça dépend avec qui.
Voilà.
Mais oui, effectivement.
On évolue au niveau de la société à ce niveau-là, mais ça reste encore compliqué. Il y a beaucoup de gens qui, en médiation, vont se mettre à pleurer, vont s'excuser de pleurer. Alors que finalement, ils ont le droit de pleurer. Donc là, c'est vraiment accueillir les émotions. Donc,
d'accord, mais même quand c'est... parce que moi, je connais des gens, par exemple, même quand le film, il n'est pas triste, elle pleure.
Ça dépend des personnes. Ouais, mais voilà, il y a des personnes, en tout cas, qui vont s'excuser d'être en colère, d'avoir été en colère, qui vont s'excuser de pleurer. On s'excuse rarement d'être joyeux, quand même. Mais en général...
Si, ça peut arriver. Excusez-moi, parenthèse. Malheureusement, les enterrements, il y en a toujours un pour sortir une connerie qui a un fou rire. Donc voilà. Voilà un exemple.
Oui, tout à fait. Bon. Ça peut être en effet un exemple.
Alors que c'est vraiment les circonstances ou non? Eh bien, si.
En tout cas, les émotions font partie de la médiation familiale. Et moi, c'est quelque chose que je mets vraiment en avant dès le premier entretien, leur expliquant qu'ils ont le droit de ressentir des émotions et que c'est l'espace où on va accueillir les émotions. Et que pour moi, c'est important de savoir dans quel état émotionnel ils sont pour pouvoir et aussi les accompagner. Donc, je commence toujours les séances en leur demandant comment ils vont, comment ils se sentent. Et un juste « ça va », en fait, moi, ça ne me suffit pas.
Ouais.
Donc, en général, je vais aller creuser un petit peu pour
ça
voir
va bien
comment ils se sentent réellement et est-ce qu'ils ont un besoin spécifique.
Ouais, parce que les émotions, bon, là, tu as parlé de la tristesse, mais c'est vrai que ça peut être aussi la colère. Enfin, il y a tout un éventail d'émotions, pas qu'humaines d'ailleurs. Donc oui, toi, tu cherches à savoir sur quelle base on part à chaque fois.
Voilà, c'est ça. Moi, j'ai besoin de savoir comment ils arrivent, avec quelle émotion ils arrivent, et de pouvoir justement m'adapter en leur demandant s'ils ont un besoin spécifique par rapport à l'état émotionnel dans lequel ils sont, pour pouvoir justement être au plus près de leurs besoins à ce moment-là.
Mais comment tu fais quand même? Parce que c'est vrai, là, tu l'as dit, salut, ça va? Ouais, ça va. Bon, toi, ça te va pas, justement, comme réponse. Et tout le monde fait ça, c'est normal. Mais comment tu fais pour relancer?
Alors, je peux aller questionner, s'il me dit juste ça va, je relance notamment sur la communication non-verbale que je peux éventuellement percevoir, sur ce qu'il me semble en tout cas en faisant un retour.
Ah, il y a des ça va ou la tête baissée, tu dis
j'ai la sensation
ça
que c'est un petit ça va, ou j'ai la sensation à votre regard que finalement c'est peut-être pas trop ça. Je peux essayer de rebondir sur le non-verbal ou être vraiment dans un questionnement. Après, il y a aussi la roue des émotions, ou des cartes autour des émotions. Donc, la roue des émotions, c'est une roue où il y a plusieurs... il y a trois roues dedans. Une sur comment je me sens au niveau corporel. Après, quelle émotion il y a au niveau... alors, je ne sais plus en tête, mais bon, il y a trois étapes sur la roue des émotions qui permet d'avoir vraiment plusieurs éléments pour éclairer
sur l'état émotionnel
de la personne. Ça lui permet déjà de se questionner sur elle-même en ayant cette roue, parce qu'il y a plusieurs mots proposés, donc elle va chercher à travers ces mots-là quel est réellement son état à elle. Et il va y avoir aussi des cartes d'émotions qu'on peut utiliser. Il y en a plusieurs
des cartes
formes,
d'émotions, c'est
plusieurs
quoi ça
types. C'est des cartes, comme des cartes à jouer, par exemple, avec des émotions qui sont dessus dessinées, avec des mots pour éclairer...
colère, c'est quoi l'image? Ah oui, il y a Lucia qui montre des petits images. Oui, ça ressemble pas aux emojis, mais c'est un peu des trucs comme ça, quoi. Des trucs avec des sourires ou des têtes un peu schématisées.
Voilà, ça dépend. Il y en a plein des différentes. Il y en a de plus en plus. Et donc, on peut utiliser ces supports-là éventuellement pour aider les personnes. Parce que des fois, ils ont besoin d'un dessin aussi.
Oui.
Voilà, c'est plus facile, c'est plus expressif avec un dessin. Donc, moi, je les interroge à l'arrivée. Je les interroge aussi à la fin de la médiation.
À pouvoir si ça a un peu changé.
Comment ça va, comment ils se sentent. Voilà, donc ça, c'est ma manière à moi, encore une fois, ma pratique à moi. Et après, c'est important pour moi de leur spécifier que si c'est compliqué en plein milieu de la séance, de ne pas hésiter non plus à demander une pause, à demander à un moment donné de sortir si l'émotion est vraiment présente, de pouvoir l'accueillir. Voilà. Parce qu'on a aussi les claques qui portent.
J'imagine.
Les portes qui claquent plutôt.
Oui, les portes qui claquent, c'est bien ça. Oui,
c'est plutôt dans ce sens.
Oui, ça doit arriver.
Voilà, donc du coup, c'est important aussi d'accueillir cette émotion-là et de ne pas la laisser passer, de ne rien faire.
Les émotions, donc premier des outils du médiateur. On va passer à un autre type d'outils. On va passer dans le gros outil, puisque Lucia, tu vas nous parler de pyramide. Là, c'est du gros boulot.
Oui, mais
si tu me demandes de construire une pyramide, non.
C'est pas une pyramide égyptienne, une pyramide de besoins.
Parce qu'on pyramide de besoins. Oh, il y en a certaines qui peuvent être élevées aussi, à mon avis, ça dépend des cas, mais oui. Pyramide des besoins.
Oui, c'est une pyramide de besoins. En effet, Abraham Maslow, c'est un psychologue américain qui a décrit dans ses livres les besoins qu'une personne peut avoir. Il est connu pour son explication de la motivation de hiérarchie de besoins. Et souvent, ces besoins sont représentés par une pyramide, en sachant que cette pyramide, ça ne lui appartient pas. Ce n'est pas lui qui a positionné les besoins en fonction des pyramides. Lui, il a hiérarchisé 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 5 types de besoins. Le premier besoin qui est à la base de pyramide, c'est le besoin physiologique. Donc, on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin?
Boire,
de
manger,
d'un toit sur la tête, d'aller aux toilettes. Après, les personnes, pour pouvoir évoluer un petit peu, ils ont besoin de sécurité. La deuxième
Dans l'environnement, tu veux dire?
Oui, dans leur vie,
ou dans le contexte,
dans la famille, dans la vie sociale, dans la communauté. Donc, on a besoin de sécurité. Qu'est-ce que ça signifie que cette sécurité? C'est la sécurité de notre propre corps, la sécurité de la santé, de la propreté, de l'emploi.
Au sens large.
Parce qu'on porte l'emploi aussi, c'est très important pour les personnes. En spécial pour avant, c'était en spécial pour les hommes. Maintenant, comme on est dans une société qui est égalitaire, on a les mêmes droits comme les hommes. Pour les femmes, cette sécurité d'emploi, ça prend une place très importante.
J'imagine, bien sûr. Oui.
Après, il vient les besoins d'appartenance, les besoins sociaux.
C'est quoi ça?
D'accord. Le besoin d'amour, d'amitié, d'appartenance à un groupe, d'intimité. Après, la quatrième marche dans cette pyramide sont les besoins d'estime. La confiance et le respect de soi, la reconnaissance, l'appréciation de l'autre. De valorisation, on sent le besoin d'être valorisé dans les yeux de l'autre.
Ouais, dans les yeux de l'autre ou des autres.
Pas du tout rabaissé comme ça se passe souvent dans un conflit. Et si tu veux, la cerise sur le gâteau, c'est le besoin de réalisation, d'accomplissement personnel.
Ah oui! Oui, bien
donc
sûr.
C'est la dernière marche.
Un peu le dépassement, la projection vers le... D'accord.
Et Maslow, il dit que une personne, il ne peut pas arriver à ce type de besoin de désestime ou d'accomplissement si il ne...
Ah, il n'y a pas les premiers qui sont accomplis.
Exactement, si les premières ne sont pas bien définies.
Oui, oui, comme donc une pyramide, sa base a besoin d'une base. Pour
exactement.
Alors, qu'est-ce que vous en faites, vous, de cette pyramide de Maslow en tant qu'outil?
On va vérifier en première si... s'il y a une sécurité pour les parents, s'ils ont une maison, par exemple la résidence, où il vient de se séparer, d'accord, ils ont eu une résidence et maintenant maman ou papa doit déménager et il veut mettre en place une résidence alternée. Ok, mais la mère, par exemple, je donne un exemple aléatoire, je prends la mère, elle n'a pas travail, elle n'a pas une maison, donc elle ne peut pas prendre soin d'enfants, elle ne peut pas se sentir accomplie si elle ne sait pas où habiter, qu'est-ce qu'elle va donner à manger aux enfants. Donc pour ça, c'est très 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 important que ce besoin primordial ou les premières doit être accompli pour pouvoir passer à l'autre chose et parler d'amour, de comment on prend soin d'un enfant, comment on pense aux loisirs et d'autres choses.
Donc toi en médiation, donc par rapport à cette pyramide de Maslow, là tu prends chacun des critères un par un, de la base au sommet si on peut y arriver, pour vérifier que cette pyramide des besoins existe chez la personne avec laquelle tu t'entretiens.
On essaye de vérifier, de voir comment on peut coordonner tout ça et quelles sont les solutions qu'ils ont, les personnes. Parce qu'elle peut trouver au moment que la médiation se met en place, peut-être qu'elle n'a aucune idée où elle doit aller, qu'est-ce qu'elle doit faire. On pose des questions, on essaye de l'aider par le questionnement et elle va trouver elle-même une solution.
Voilà pour le deuxième des outils de la trousse à outils de la médiation familiale, les outils du médiateur. Troisième outil, au pluriel ou au singulier, je ne sais pas, c'est quoi?
C'est la communication.
Ah bah oui.
Qui est très 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 important. Sans communication, on ne peut rien faire.
Oui, bien sûr.
Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de communication, je le dis après. En première, quand on parle de communication, on parle de l'écoute. Et il y a plusieurs types
avant
d'écoute.
Je
suis tombée il y a quelques jours avant venir ici d'enregistrer, quand j'ai préparé un petit peu la documentation sur un article écrit par Maroli Caroline Despax. C'est une médiatrice, c'est notre analysateur de pratique aussi. Et c'est une femme qui est en bienveillance et qui partage avec nous plein d'outils. Et je suis tombée sur un article sur l'écoute. Et elle dit là qu'il y a quatre types d'écoute. C'est l'écoute de surface.
Ouais, c'est qu'on écoute.
Elle est pas très.
Vite fait, quoi.
Elle est pas du tout recommandée en médiation ou dans les professions d'accompagnement. On fait semblant qu'on écoute l'autre, mais on n'est pas centré du tout sur ses désirs, sur les besoins, sur ses besoins. On n'est pas disponible réellement de l'écouter. Et l'attention se porte sur notre propre expérience. C'est une fausse écoute, si tu veux, si je peux dire comme ça. Elle est pas du tout recommandée en médiation, mais malheureusement...
Elle est très répandue.
Elle est très répandue entre les personnes, par exemple. Ouais, quand vient, ils disent oui, j'écoute. Et quand tu vérifies qu'est-ce qu'il a dit l'autre, tu te rends compte qu'en effet, ils n'ont pas écouté. Après, c'est l'écoute conversationnelle, d'accord, qui se concentre en même temps sur ce que dit l'autre, mais sur soi-même. Ça aussi, ce n'est pas une écoute qu'on utilise en médiation. Donc, si tu veux un petit exemple, je suis d'accord avec toi, mais... Donc, recentre sur nous-mêmes. Tout le temps, on change un petit peu le sujet. Troisième type d'écoute, c'est l'écoute active. Et d'ici, ça commence à être intéressant pour nous parce qu'on est dans une écoute de l'autre, dont on cherche à comprendre qu'est-ce qu'il exprime l'interlocuteur. On mémorise les éléments clés pour pouvoir lui rendre et lui renvoyer la compréhension.
Donc c'est une vraie écoute, un peu de concentration.
C'est une vraie écoute. Et les professionnels de l'accompagnement, ils utilisent beaucoup cette d'écoute active.
Mais alors qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Parce que tu nous dis qu'il y en a quatre, mais je vois pas ce qu'il peut y avoir au-dessus de l'écoute active, à part la fusion. Mais sinon, je vois pas quoi.
On n'est pas dans la physique, mais c'est l'écoute profonde.
Ah oui, bah qu'est-ce que c'est que ça, l'écoute profonde?
L'écoute profonde, c'est le type d'attention qui se porte sur l'autre et sur la compréhension de l'autre. On est en bienveillance, on est dans l'empathie, en générosité, en confiance, donc on est très attentif.
Complètement tourné vers l'autre.
Tourné vers l'autre. C'est une écoute exceptionnelle destinée à provoquer le changement de l'autre. On l'utilise beaucoup en médiation.
Donc vous, c'est l'écoute profonde
C'est l'écoute active et l'écoute profonde. Ça dépend aussi de notre envie, ça dépend aussi de notre expérience, parce que si tu débutes ton métier, peut-être que tu n'es pas très familiarisé ou tu n'es pas très à l'aise avec ce type d'écoute. Mais ça s'apprend et fur et à mesure, on essaye de pratiquer ce type d'écoute.
Et Lucia ou Justine, d'ailleurs, l'écoute profonde, si moi je vous en plat là, quand je vous regarde, je sais pas moi, ça se reconnaît à quoi?
Je sais pas si tu es dans une écoute profonde, tu es dans une écoute conversationnelle plutôt. Je pense que tu es dans une écoute conversationnelle parce qu'on fait un dialogue.
Oui, c'est vrai.
Après, je sais pas Justine si elle est d'accord avec moi.
Moi, je suis dans une écoute profonde en tout cas. Je vous écoute.
Donc, écoute profonde chez Justine, c'est les bras croisés. Non, mais ça se reconnaît de l'extérieur, faut se prendre la tête. Enfin, tu vois, il y a. Non, il n'y a pas de posture particulière par rapport au type d'écoute. Ok, excuse-moi.
Mais à propos de qu'est-ce que tu viens de dire, bras croisés, c'est l'observation consciente, tu vois? Tu viens à découvrir un outil. Tu as dit au début de l'émission que tu n'as pas la trousse d'outils, mais tu commences à être bon avec ça.
Bah, grâce à vous. Bon, l'observation consciente.
Consciente, oui, où on observe très attentivement l'autre pour aller chercher tous les signes non-verbaux qui nous permettent à le déchiffrer un petit peu, à comprendre le message.
Ça, je l'ai déjà fait, ça.
Par exemple, si la personne, aussitôt en ce moment, tu vas lever les sourcils et croiser les bras, ça signifie probablement...
Attention, parce que Justine, c'est exactement sa position.
Signifie qu'elle est surprise de ce que je viens de dire. Est-ce que c'est vrai? Non.
Pourtant, elle a croisé peut-être les sourcils où ils étaient peut-être pas comme ça. D'accord.
Ben voilà, c'est ce que les psychologues ils disent. Bon, après, c'est pas 100% peut-être vrai. Un autre outil qu'on utilise, c'est la communication verbale. Donc, on parle. Et la communication verbale, c'est que 7% de tout ce que ça signifie que la communication. Donc, les mots ne sont pas très, très, très importants dans une communication. On a la communication non verbale qui est
les
beaucoup
gestes.
Plus exactement tout ce que c'est visuel qui représente 55%. Donc, sont tout ce qu'on observe, les expressions, les micro-expressions faciales, les mains croisées, la tête qui penche un petit peu, les désaccords de tête, etc. Et après, 38%, c'est la communication non verbale vocale. Tout le ton, la voix, la silence, parce qu'on En médiation, la silence, elle est très importante. On l'utilise comme outil aussi pour donner un peu une pause aux personnes à respirer ou pour faire les émotions. Ma collègue, elle a parlé de toutes les émotions qui montent. Ouais. Et par la silence, on donne aux personnes le temps que les émotions,
ça descende. Mais combien de temps maximum?
Quelques secondes, une minute, deux minutes, ça dépend.
Parce qu'au bout d'un quart d'heure, l'outil va dire, mais ça va, Loucha? Non, mais c'est exprès, c'est du silence.
Voilà, ah, okay. Et aussi, on peut donner aux personnes le temps de réfléchir à ce qu'on a travaillé en médiation.
Réfléchir, c'est pas mon fort, ça non plus, c'est comme la boîte à outils. Bon, on poursuit avec les outils du médiateur, bien sûr, dans l'ABC de la médiation familiale sur CFM Rhodes, avec Justine.
Oui.
Le questionnement pertinent.
Oui, alors... C'est surtout le questionnement, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va beaucoup utiliser les questions. Alors, il va y avoir les questions ouvertes et les questions fermées, c'est-à-dire une question où les personnes vont répondre juste par oui ou par non, ou des questions où on va permettre à un moment donné d'ouvrir le dialogue en fonction de la thématique qu'ils sont en train d'aborder. Mmh. Voilà. Donc, on est beaucoup dans du questionnement. C'est-à-dire que ça nous évite aussi d'être dans une posture où on va aller interpréter, où on va aller...
Ah, tu demandes, voilà.
Voilà. Du coup, même si on a peut-être une sensation, nous, de... Voilà, qu'on a envie en tout cas d'amener peut-être quelqu'un à dire quelque chose ou de l'amener sur une thématique, on va être plus sur du questionnement finalement pour... Alors,
lui faire dire
plus ou moins. Après, c'est là où c'est pas évident parce qu'il faut arriver à formuler au mieux nos questions pour qu'elles soient déjà compréhensibles auprès des personnes, qu'elles soient pas non plus trop dirigées tout en étant éventuellement dirigées un peu si on le souhaite. Enfin voilà, donc le choix des questions, c'est un vrai outil, mais c'est pas forcément évident.
Ouais. Et alors, donc ces questions, tu les adaptes même au caractère de la personne, à la situation, même rien que le ton, là, on l'évoquait il y a un instant, il y a des façons aussi de poser une même question, juste un ton peut faire avoir des résultats très différents.
Tout à fait.
Donc vous travaillez là-dessus.
Voilà, c'est ça. Ça va vraiment dépendre. Alors moi, le ton, j'ai pas l'impression de changer forcément le ton à chaque fois, mais ça va être vraiment réfléchir à la question qui va être la plus pertinente. Qui me semble en tout cas moi la plus pertinente dans le moment que je suis en train de vivre avec eux, en fonction de ce qu'ils viennent de dire, d'essayer justement d'aller questionner pour aller éclaircir un petit peu ce qui vient d'être dit, ou d'essayer de voir si j'ai bien compris. Mais au lieu de moi lui dire ce que je pense avoir compris, je vais le formuler peut-être sous forme justement de question, pour avoir une ouverture un peu plus sur les réponses.
Ouais, parce que la formulation, une question peut être très direct,
tout à fait,
ou beaucoup plus enrobé pour
c'est
la faire passer. Hein.
C'est ça. Donc ça va vraiment dépendre de la situation. En fait. C'est vraiment du cas par cas.
La situation ou de la personne?
La situation, la personne, le moment. Voilà, c'est vraiment une adaptabilité en fonction. J'arrive pas avec une feuille où j'ai plein de questions et je pioche la question en fonction.
D'accord.
Ça va être vraiment. Alors il y a des questions, j'ai envie de dire, qui peuvent être basiques, hein, comme par exemple, quel est votre besoin principal ou qu'est-ce que cette émotion vient provoquer comme besoin. Enfin voilà, il peut y avoir des questions, j'ai envie de dire, qui sont un peu plus général, mais il y en a d'autres, voilà, qui vont être vraiment spécifiques en fonction de la situation. En tout cas, le questionnement,
la formulation
d'une question, c'est un outil, une technique de communication qui est très souvent utilisée par l'ensemble des médiateurs d'ailleurs.
Et ça, derrière, l'objectif de cet outil, de ce nouvel outil, bah, c'est d'aboutir à rentrer dans une compréhension, dans un dialogue.
Clarifier un petit peu mieux. Comprendre du coup ce que vit la personne, ce que ressent la personne, en éclairant un petit peu à travers une question qui ouvre au dialogue.
Voilà. On va faire une petite pause dans cette émission l'ABC de la médiation familiale sur CFM Rhodes. La pause, c'est de la musique, et comme vous le savez désormais, la musique, c'est le choix de Lucia Ventila. T'as eu envie d'écouter quoi avec nous, Lucia, aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'aimerais bien écouter Robbie Williams avec Phil.
Phil. C'est parti sur CFM Rhodes.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in.
Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough.
CFM Rhodes, l'ABC de la médiation familiale, deuxième partie. Le thème de ce numéro 8 de l'ABC, c'est les outils du médiateur. Et on va passer à un nouvel outil, deux nouveaux outils. Justine, de quoi il s'agit ?
Alors, ça s'appelle le génogramme. Alors, tout le monde ne l'utilise pas forcément. Moi, je ne l'utilise pas forcément non plus, mais en tout cas, ça peut être un outil intéressant qui permet d'avoir une représentation graphique des relations entre les personnes et de où chacun se situe. C'est un peu comme un arbre généalogique, en fait.
Ouais, c'est quoi un génogramme ?
En gros, c'est comme un arbre généalogique. Ouais. Hein, mais
tu mets
père,
quoi sur les
mère,
branches ?
Voilà, mais du coup, c'est un peu plus élaboré, j'ai envie de dire. C'est un peu sous un autre aspect. Ça permet d'avoir une photographie, en tout cas, de la situation. Pour savoir qui est où, comment, quelles sont les places de
familiale,
chacun,
la situation au sens
familiale,
large.
Voilà, au sens large.
D'accord.
Ça permet d'avoir un meilleur repère. Alors, j'ai envie de dire qu'on est sur une situation basique, père-mère, trois enfants, et qu'il n'y a pas trop de personnes autour, ça va.
C'est vite fait.
Et dès qu'il commence à y avoir des familles recomposées, ou des beaux-parents, ou des belles-mères qui interviennent, et qui ont une place importante dans ce qu'on est en train d'aborder en médiation familiale, ça peut être important. D'avoir une visibilité un peu plus graphique de la situation.
Et quand tu dis important, important pour vous, médiatrice familiale pour le coup, mais important aussi peut-être pour la personne qui se rend un petit peu compte
Tout à fait, ça permet aussi à eux d'avoir une autre visibilité de la situation. Et ça me permet de faire le lien avec le paperboard. Donc, c'est un outil qu'on utilise. Hein. C'est un grand tableau aussi hein, qu'on a en général la plupart dans nos bureaux en tant que médiateur, qui permet justement graphiquement, alors de dessiner pas forcément parce qu'on n'est pas tous très doués au dessin.
Je t'en veux pas.
Mais en tout cas, ne serait-ce que de marquer des mots, de faire des schémas, d'essayer de faire une représentation d'une situation, ça permet d'avoir un recul
sur ce que
les personnes
tableau.
Vivent, de le mettre sur le tableau, de mettre aussi de la distance pour pouvoir prendre une décision un peu plus éclairée avec tous les éléments.
Donc une représentation visuelle, oui. C'est vrai que c'est pratique aussi pour se rendre compte des choses. Troisième peut-être élément dans ces nouveaux outils du médiateur, avec toi Lucia, qu'est-ce que tu vas nous sortir comme outil ?
Je fais le magicien maintenant,
d'accord ? Un lapin.
Un lapin, oui, je vous pose un lapin, j'ai appris cette expression en français. On a une palette de cartes, d'accord ? Comme sont les cartes des émotions, les cartes de besoins, mais aujourd'hui je veux vous parler des cartes Dixit.
Des cartes Dixit ?
Oui, okay. Exactement, et je t'ai préparé un petit jeu.
Ah bah, tu vas voir à la fin. J'aime bien jouer, moi.
Oui, cette carte, on l'a empruntée de la thérapie. Donc, c'est un jeu de société basé sur une série des images, sur la créativité, en effet.
Ouais.
On peut le jouer à la maison, nous. En famille, mais on peut l'utiliser en thérapie et en médiation.
Ouais.
C'est vrai qu'on ne l'utilise pas chaque jour, ça dépend de la situation, on décide de faire appel à cette carte qui peut nous aider. Par exemple, si il y a beaucoup d'émotions ou si la personne n'est pas très parlante, très bavarde, les cartes Dixit, ça peut nous utiliser.
Peut...
Ce sont des cartes très, très colorées qui représentent des dessins différents.
Si, ça me fait penser à un truc, alors je ne sais pas si tu connais toi, mais... Quand j'étais gamin, on entendait parler de ces trucs-là, dans les tests plus ou moins d'intelligence, hein, mais bon, bref. Tu sais, des taches d'encre, et puis on dit, qu'est-ce que tu vois là ? Il y en a un, il dit, ah bah je vois un vélo, puis l'autre il dit, bah je vois ma mère.
Ça, c'est aussi en psychologie,
c'est
exactement.
Non, pas vraiment.
C'est beaucoup plus coloré. Ce sont des images, donc comme des cartes de jeu, mais très, très, très colorées. Ça peut représenter, par exemple, une petite fille qui chante au violon et elle est dans un champ, d'accord ? Rien autour d'elle.
Mm-hmm.
Ou on peut avoir un dragon et un petit bonhomme qui veut se battre avec le dragon. Tu vois, c'est ça, qu'est-ce que je t'ai préféré. Ou une petite fille
j'ai des images sous les yeux.
Oui, tu peux choisir une, parce que c'est ça la règle de jeu. On met sur la table les cartes, 5, 10, 20, ça dépend. On peut jouer à deux ou plusieurs, en médiation on est deux d'habitude, donc maman, papa.
Mm-hmm.
Et on le demande à choisir une carte. Et ils vont choisir en fonction de ses émotions.
C'est pas comme le tarot, tu vas pas me dire mon avenir.
Oui, exactement, c'est un petit peu comme les cartes de tarot, si tu veux.
Ça fout les jetons. Donc tu m'en fais choisir un ?
Je te fais choisir. Alors, et tu peux expliquer au public qu'est-ce que tu as choisi.
Alors je vais prendre, j'hésitais entre deux, mais tu as parlé du dragon, donc je ne vais pas le prendre. Moi je vais prendre l'escalier en colimaçon.
La colonne d'infini fait par Brâncuși. C'est un sculpteur roumain qui a vécu, il est exilé à Paris.
Ah bon ?
c'est la colonne d'infini s'appelle. Très beau.
Un genre d'escalier en spirale dans la
nature. T'as bien choisi. Ben, voilà, on va faire médiation. Tu peux me dire qu'est-ce que ça représente pour toi,
moi, les escaliers, ça me fait mal aux cuisses. Ça me fait penser à ça. Ça me fait aïe, c'est haut, il faut monter, ça va être douloureux. Il faut tourner en rond, puis on ne sait pas où on va aboutir. Voilà déjà.
Sinon, voilà, en contexte d'une séparation, ça peut être, on ne sait pas où on va aller.
Ah ouais, d'ailleurs, en faisant parler, toi t'interprètes d'ailleurs.
Exactement, par rapport à la situation. De médiation. Exactement.
D'accord. Et le petit escargot, il y a un petit escargot sur cette image. Et des fois, vous devez entendre des trucs pas possibles quand même, des fois. C'est un peu bizarre, non ? Les interprétations des gens.
Ben, on laisse la liberté à l'imagination. Il peut dire qu'est-ce qu'il ressent normalement en cette situation. Ça peut être une émotion positive, ça peut être la colère, ça peut être le désespoir, ça dépend de la personne. Les escargots que tu as là, qu'est-ce que ça peut représenter pour toi, par exemple ?
Un mec qui va pas bien, hein, parce que des escargots qui jouent de la trompette avec leurs petits doigts... Je me dis, c'est pas courant, c'est joli, je sais pas. Là, j'avoue que les escargots qui jouent de la trompette, Là, si j'étais avec toi dans un bureau, je te dirais non, écoute, là, je sais pas moi.
Oui, ça peut représenter la lenteur, l'escargot de voix, et tu l'as choisi parce que toi, tu n'as pas envie d'avancer, ou je sais pas.
Bah, tu vois, je suis pas dans cet état d'esprit-là parce que je ne voyais pas du tout le truc.
Parce que tu n'as pas venu jusqu'à maintenant en médiation.
Non, voilà. Et puis c'est vrai que je ne suis pas divorcé, ni séparé, ni rien. De toute façon, il n'y a pas moyen. Donc, bon. Ok.
Voilà.
Donc, ces outils, oui, j'imagine, c'est bien pratique, notamment pour faire parler des gens qui ne parlent pas d'emblée, naturellement, et puis aussi, même ceux qui parlent, les faire un petit peu explorer certains aspects de leur situation, de leur personnalité. Oui, c'est un bon support.
Exactement, c'est un bon support qu'on utilise de temps en temps.
Les cartes Dixit.
Exactement.
Ça s'appelle. Ok, c'est bien noté. Est-ce qu'il y a d'autres outils ou oui, Justine, elle me dit, oui. Qu'est-ce que tu as comme outil dans ta trousse?
Oui, alors, il y a les métaphores. Donc, ça va un peu en lien avec les cartes Dixit, qui permettent d'imager. Là, les métaphores, c'est pareil. Ça permet un petit peu d'imager pour permettre aux personnes d'avoir une autre vision de la situation, avoir une meilleure compréhension.
Mm-hmm.
Alors, on avait déjà évoqué l'histoire du train, il me semble, dans une des émissions. Où on peut faire l'image qu'il y a des wagons.
Ah oui, je me rappelle.
Et qu'il y a une personne qui peut monter dans un wagon, qui peut commencer à avoir avancé avec le wagon, et qu'il y a une autre personne qui peut être dans un wagon bien plus loin, ou qui peut être restée sur le quai de la gare. Ça, on l'utilise pas mal dans la temporalité par rapport à une situation, à un deuil, savoir un petit peu à quel niveau chacun est pour savoir s'il faut s'attendre, pas s'attendre, est-ce qu'il y a beaucoup d'écart en fait entre les personnes, à quel endroit ils se situent. Donc, par exemple, ça c'est une idée de métaphore.
Ouais, mais
une autre métaphore que moi j'utilise beaucoup, c'est en leur disant regardez par la fenêtre et dites-moi ce que vous voyez. Et en général, les personnes ne vont pas voir la même chose. Ce qui permet de montrer que face à une situation, chacun va voir une vision différente de la situation.
D'une même chose.
Voilà, d'une même chose. Pourtant, on voit exactement, on est en train de regarder dans le même cadre et il y a derrière le même paysage. Sauf qu'en fait, chacun, on va voir des choses différentes.
D'accord, ça, tu l'as constaté, ça. Parce que, bon, j'ai envie de te dire, si tu me demandes, j'aurais tendance à dire, là, qu'est-ce que tu vois par ta fenêtre? À la radio, des voitures. Je serais étonné que quelqu'un te dise autre. Si, quelqu'un pourrait dire, non, ça ne t'attendrait pas sur les voitures.
Quelqu'un peut très bien te dire, tu vois, moi je vois l'arbre qui est derrière la
d'accord,
voiture.
Okay. D'accord. Voilà.
Et donc ça permet de montrer que chacun a une vision différente de la même situation.
D'accord, je comprends.
Tu vas au cinéma, c'est pareil, face à une image ou dans un livre, une photo, tu ne vas pas forcément voir la même chose dans cette image-là. Donc ça, c'est des métaphores, c'est vrai que ça permet justement aux personnes d'avoir une autre vision de la situation et de les ouvrir en fait sur la
situation.
Voilà, avec cette image-là.
Une petite dernière métaphore.
Alors, l'autre métaphore que des fois j'utilise, c'est l'iceberg.
Ah oui.
En disant que du coup, y a le dessus de l'eau, ce qu'on voit au-dessus. Donc, en général, c'est ce qu'on voit, c'est les réactions. C'est
la partie émergée
voilà, de l'iceberg. Donc, du coup, c'est comment les gens réagissent, leur manière d'être. Et en fait, au final, il y a tout ce qu'il y a dessous qu'on ne voit pas, et que la personne peut-être ne voit pas elle-même. Envie d'aller le voir non plus.
Et
donc, du coup, c'est d'aller voir aussi tout ce qu'il y a dessous, c'est-à-dire les émotions et les besoins qui sont sous-jacents de ces réactions qui sont tout en haut, au-dessus de l'eau. Donc, il y a aussi cette métaphore-là qui peut être dessinée, encore une fois, sur le paperboard, et qui permet aux personnes de voir vous vous situez où. Est-ce que vous êtes en haut? Est-ce que vous avez réussi à aller en bas? Comment vous faites pour aller à un moment donné en bas pour voir vos besoins? Voilà, donc ça peut être intéressant d'utiliser les métaphores.
Et puis il y en a qui peuvent dire, moi je suis Titanic, je fonce sur la
tête. Voilà. Après, moi des fois, ça m'arrive aussi d'utiliser les citations.
Ah, donc, j'aime bien aussi, les citations.
Voilà, je peux prendre une citation. Alors des fois, ça m'arrive de les écrire avant qu'ils arrivent, en fait. De l'écrire au tableau, pareil, sur le paperboard.
Ah oui, ils arrivent pas.
Et il y a quelque chose d'écrit, puis on peut partir de ça en disant, là j'ai écrit ça sur le tableau, ça vous inspire quoi? C'est un peu comme les cartes Dixit, en fait, hein, pour savoir un petit peu. Dire, là, qu'est-ce que ça vous inspire d'avoir vu cette phrase écrite
C'est
sur
quoi ta citation préférée?
Préférée, j'en ai pas forcément des préférées. Une que j'ai pas mal utilisée, c'est « La vie te mettra des pierres sur ton chemin. À toi de décider si tu en feras un mur ou un pont. »
Ah, c'est bien.
Je l'utilise beaucoup, celle-là, quand il y a des conflits, notamment, entre les personnes, pour savoir justement quel choix ils font et les mettre face à leurs responsabilités en leur disant qu'en fait, c'est à eux aussi de savoir ce qu'ils veulent mettre dans la relation pour voir si ça va faire avancer ou pas. La situation.
Voilà. Et puis
donc ça permet aussi de partir un peu plus dans autre chose et d'aller élaborer différemment.
C'est intéressant tout ça et tous ces outils du médiateur que vous nous avez présenté dans cette émission. Lucia et Justine. Je rappelle que vous êtes toutes les deux médiatrices familiales à la DAVEM de l'Aveyron, qu'on peut vous contacter. Vous avez changé d'adresse, vous êtes dans le centre-ville de Rodez, désormais rue Ségui.
Oui.
Et on peut retrouver tous les contacts coordonnées, notamment sur les téléphones, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a une page Facebook hein, de la DAVEM de l'Aveyron à DAVEM 12. On se retrouve dans 15 jours.
Tout à fait.
Avec grand plaisir. Pour une nouvelle émission, est-ce que vous connaissez déjà le programme?
Oui, on va parler de l'argent en médiation.
Ah bah oui, ouh là 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 là. Ou ça aussi c'est un sujet à conflit et du coup à médiation.
Mais
ça doit être tendu les questions autour de l'argent. Bon, nous on va se quitter sur une note plus positive, note musicale, avec Lucia qui a choisi quoi comme titre?
What a tweet, Love is all around.
Ah, oh, ouette, Lucia.
La
Mais t'as jamais Laurent. Connu, t'es trop jeune, ouette, c'est toute ma jeunesse.
Ah oui, j'ai connu, mais non, je suis pas très jeune.
T'étais pas née. Bon, merci beaucoup, à dans 15 jours.
Au revoir, David.
Au revoir.
I feel it in my finger, I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling. On the wind, it's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let it show. Love me, come on and let it show.